Seigneur bien-aimé, Père de gloire, Dieu tout-puissant, nous sommes là au rendez-vous avec nos frères d'Europe et avec toi, notre Dieu, à tous. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Nous voulons t'entendre, Seigneur, avant de dormir, surtout pour nos frères et sœurs d'Europe. Comme toujours, nous avons besoin de ta compagnie, de ton esprit. Toi, avec nous tous, et surtout avec notre frère qui va conduire notre méditation, que tu le remplisses davantage de ton esprit pour qu'il nous conduise selon ta volonté. Nous avons tous besoin de ce même esprit pour éclairer nos pensées, nos esprits, afin de comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Béni sois-tu, notre Seigneur. Nous te prions toujours au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Merci.
Et merci beaucoup pour la prière, Papa José. Moi, Christine, nous sommes en Genèse, chapitre 29, les 14 premiers versets, juste la première partie du verset 14. C'est la lecture que nous allons faire pour la méditation. Allez-y.
Ok. Lisons la parole du Seigneur bien-aimé. Le titre chez moi, c'est Jacob chez Laban. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on mettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes des Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la lecture de ce texte. Frères et sœurs, vous qui venez de vous connecter, nous allons méditer cet après-midi ou ce soir dans le livre de Genèse au chapitre 29 du premier verset jusqu'au verset 14e. Il s'agit de la marche vers la maison de Laban, la marche de Jacob. Rappelons-nous, comment cet homme a quitté chez lui, dans la maison de son père, avec un grand conflit, le conflit avec son père. Et même, je vais mettre un téléphone en mute qui crée un conflit parce que le message est enregistré. Donc, je disais qu'il a quitté la maison de son père, il a laissé derrière lui vraiment un conflit avec son frère jumeau, Esaü. Là, en cours de route, il va faire une grande vision, c'est la vision d'échelle. Dans cette vision, il va voir les anges monter et descendre. Et Dieu, lui, était juste au-dessus de cette échelle. Bref, il va donner le nom à cet endroit, Bethel. Et dans notre texte, c'est qu'il va quitter maintenant Bethel après avoir fait un vœu. On se rend compte que quand on fait un vœu au Seigneur, le Seigneur est vraiment à un cœur touché quand on lui fait le vœu. Rappelons-nous le vœu que Anne avait fait à l'Éternel pour son fils qu'elle va avoir après Samuel. Ici, nous voyons Jacob qui fait un vœu à l'Éternel. Si vraiment tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et il se met en marche vers la direction de son oncle Laban. Là, nous venons tous d'écouter, il va faire les rencontres des bergers, il va faire rencontre de sa cousine Rachel. Et bref, il va retrouver, il arrive à destination là où il partait, chez son oncle Laban, le frère de sa mère Rebecca. Voilà un texte riche en enseignement qui nous est donné. Deux questions. La première, de quoi ou de qui parle ces versets? Et la question 8, est-ce que ce passage m'apprend? Est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui peuvent m'aider à comprendre ce que je viens de lire. Voilà, frères et sœurs, de quoi il s'agit dans ce texte. Nous pouvons maintenant demander la parole. Évitons seulement de monopoliser la parole longtemps, mais ayons, si nous pouvons partager ce que nous avons à dire dans 2 minutes, c'est vraiment l'idéal. Pour revenir autant de fois que nous pouvons. Voilà, frères et sœurs. Mais allons-y et pas à pas, dès le départ. D'abord, la rencontre des bergers, et puis la rencontre de Rachel, et puis la rencontre de Laban. Allons-y petit à petit. Qui voudrait commencer dès le départ, s'il vous plaît? Utilisons l'étoile et les chiffres 2. Oui, papa José, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, oui, je prends juste le premier verset. Au chapitre 28, le dernier verset, c'est là où Jacob à part de son vœu, il a présenté son vœu. Cette pierre que j'ai dressée sera une maison de Dieu. Et c'est à lui que je donnerai le dixième de tout ce qu'il m'accordera. Après avoir dit cela, il se met en route et prit la direction des pays de l'Orient. Nous pouvons imaginer le jeune homme, quand il a quitté la maison de ses parents, l'attitude qu'il avait Papa, modérateur, a fait allusion à cette séparation. Et maintenant que passé une nuit qui était agitée mais paisible parce que il a rencontré le Seigneur qui lui a donné des promesses vraiment fermes. J'imagine que le jeune homme qui quitte cet endroit-là pour se diriger là où il va n'est plus le même. Il doit être très allégé, il doit être à l'aise, il doit être très content. La Bible ne le dit pas, mais on imagine, parce que l'attitude qu'il avait en quittant la maison n'est pas la même en quittant ces lieux, le Bethel. Que lorsque on rencontre le Seigneur, après avoir entendu sa voix, on n'est pas le même. On doit avoir un changement. Et je pense que c'est la même chose pour nous, d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a rencontré le Seigneur et nous ne sommes pas les mêmes que nous étions il y a plusieurs années avant cette rencontre avec le Seigneur. Merci.
Oui, merci, et Papa José. Ce jeune homme n'est plus le même. Il a été avec un cœur lourd, un cœur où il sentait vraiment la condamnation pour dire « Pourquoi j'ai fait ceci maintenant ?» J'ai créé, en écoutant ma mère, des troubles dans la famille et même la séparation. Il va rencontrer vraiment le Seigneur à Bethel, le nom qu'il a donné à cet endroit. Le verset 21 du chapitre précédent, le chapitre 28, il va, après cette rencontre, il va conclure « Alors l'Éternel sera réellement mon Dieu. » On dirait qu'il est réellement changé par cette rencontre. C'est là qu'il est mis vraiment en marche vers les fils de l'Orient. Merci beaucoup pour souligner cela, Papa José. Il va continuer. Est-ce qu'il y a encore une deuxième intervention? Au verset 2, nous voyons cet homme qui était déjà, bien sûr, mature, un homme fait. Il va apercevoir un puits dans la campagne et à côté du puits, trois troupeaux, bien sûr, avec beaucoup d'animaux qui étaient campés. Et on abreuvait les troupeaux. La pierre était très grande au-dessus du puits, du puits qu'on abreuvait les troupeaux. Le verset suivant, on nous dit « Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre. » Mais rappelons-nous que la famille d'Isaac, son père, son frère était un chasseur, mais lui, Jacob, il avait l'expérience de berger. Il avait l'expérience de berger. C'est ainsi que il va utiliser cette expérience pour se mêler au berger qu'il va rencontrer. C'est ainsi que il va commencer par leur parler. Au verset 4, c'est lui qui va parler. Et puis, même quand il va voir qu'on a brevé les petits et leur remettait la pierre à sa place sur l'ouverture, tout cela, il va observer pour voir et voir comment il va aborder ces gens, qu'est-ce qu'il va leur dire, comment il peut introduire. La leçon que je tire, c'est que toute l'expérience que nous avons acquise dans le passé peut nous aider un jour.
Amen.
Peut nous aider un jour dans notre marche avec Dieu, dans notre gestion de ceci, de la maison, de toute l'expérience que nous avons acquise quand nous étions à l'école primaire, secondaire, quand nous avons travaillé à un endroit, nous avons quitté, nous sommes venus à un autre endroit. Nous avons tout le long du parcours acquis un certain nombre d'expériences et toutes ces expériences, Dieu, lui, ne travaille pas avec le hasard, c'est pas pour rien. C'est que Jacob est en train de nous montrer, il va utiliser cette expérience pour échanger avec ses bergers et ça va être profitable pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Encore quelque chose à dire. Je ne vois pas de main levée, mais vous pouvez parler.
Oui.
Papa, c'est le seul, je voulais parler.
Oui, allez-y, papa, Samien.
Moi, je vois dans le verset 1 à 5, même jusque plus loin, même jusqu'à 6. Je vois ici comment je vois la fidélité, j'ai vu la fidélité de Dieu.
Amen.
Le frère nous a montré tout à l'heure en lisant le verset qui précédait la prière de Jacob.
Ouais.
Ici, on voit les résultats. Comment Dieu conduit. Ce n'est pas un fait hasard. C'est Dieu qui a rassemblé, qui a permis qu'il arrive à ses plus. Et que de ce puits, il rencontre Rachel, qui est sa cousine. Et voilà que Dieu oriente les gens. Donc Dieu exauce nos prières et Dieu reste fidèle. Dieu nous oriente. Ici, il a orienté Jacob. Et je voulais terminer, mais Dieu nous prend au mot. Et parfois, nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il fait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Des fois, nous ne sommes pas vraiment attentifs à ce que Dieu est en train de faire.
Ouais.
Dieu conduit réellement ce jeune homme. Il le conduit, il l'amène. Sur un autre chemin pour ne pas trouver ce puits. Mais il va le conduire, trouver ce puits, rencontrer le berger et c'est au même puits que sa cousine arrive. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui répond à sa prière. C'est Dieu qui le conduit dans sa fidélité. Merci, merci beaucoup, papa Samuel. Je donne la parole à maman Jacqueline, s'il te plaît.
Oui, merci pour la parole. Moi, je voulais abonder un peu dans le même sens que le pasteur Samuel, parce que le verset 9 me rappelle lorsque Abraham avait envoyé son serviteur pour chercher une femme pour son fils, dans Genèse 24, 15. Dieu est toujours au contrôle de notre parcours lorsque nous marchons dans sa volonté. On voit vraiment qu'il avait dirigé le serviteur d'Abraham en ce moment-là, et c'est comme le pasteur vient de dire aussi, qu'il dirige vraiment Jacob pour arriver à la destination parce qu'il était dans sa volonté. Donc, je voulais seulement insister sur le fait qu'il est toujours au contrôle de notre parcours à condition que nous soyons dans sa volonté. Amen.
Amen. Le Seigneur est toujours au contrôle de notre parcours. Des fois, quand nous pensons que nous nous sommes perdus, mais Dieu, lui, ne se perd pas. Il est au contrôle de ce que nous sommes en conduire ce jeune homme jusqu'au bon port. Merci beaucoup, maman. Christine au Canada, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je suis vraiment touchée de l'amour du Seigneur et du choix du Seigneur. Pourquoi, quand nous voyons ici, c'est Jacob qui, vous vous souvenez, nous avons lu avec vous comment est-ce qu'il a pu voler le droit de naissance de son frère. Et il est en train de partir là où la maman, vous souvenez comment la maman avait manigancé et cherché à le faire partir, de comment elle a joué son rôle. Papa ne savait pas exactement qu'est-ce qui était. Et la maman présentait autre chose. Et comme Jacob est le choix de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Et moi, je suis touchée pour dire que vraiment, le choix de Dieu, c'est vraiment autre chose. Et quand nous voyons même le cheminement, comment est-ce qu'il est en train de partir, comme l'ont dit les bien-aimés, jusqu'à arriver ici, on sait voir la main du Seigneur pour dire que quand nous avons la faveur de Dieu dans la vie, vraiment, c'est une bonne chose. Moi, c'était comme une interpellation pour dire vraiment, Seigneur, que ta faveur soit sur moi, sur ma famille, sur ceux que nous méditons jour et nuit la parole de Dieu. Et quand la faveur de Dieu est sur nous, le Seigneur nous conduit, malgré nos faiblesses humaines. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Christine. Nous voyons vraiment la faveur de Dieu sur ce jeune homme qui avance et les choix de Dieu. C'est vrai que les Écritures disent « Mais ton frère a pris la bénédiction que j'avais. » Mais rappelons-nous que c'est lui-même qui avait vendu les droits d'aînesse. Alors quand on arrive à négliger les choses spirituelles, les conséquences sont énormes après. Merci beaucoup, maman Christine d'Angleterre. Tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, papa, pour la parole. J'interviens au verset 7 et je reviens à ce que papa a dit dans l'introduction, que Dieu utilise l'expérience que nous avons dans la vie pour pouvoir faire quelque chose, accomplir quelque chose dans notre vie. Ça me rappelle, bien aimé, dans le désert, lorsque Dieu a paru à Moïse, il a appelé du buisson ardent et quand il discutait avec Moïse, qu'il l'envoyait devant Pharaon, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Moïse a montré la verge qu'il avait, le bâton de berger qu'il avait. Et vous vous rappelez bien aimé comment Dieu a pu utiliser ce bâton pour pouvoir faire opérer des signes et des prodiges, juste quand même à ouvrir l'eau, ouvrir un chemin à travers les eaux. Donc c'est pour dire que tout ce que nous avons appris, si Dieu a permis que nous puissions peut-être étudier, faire quelque chose, exercer un métier, avoir... des connaissances, ces connaissances-là, un jour ou l'autre, Dieu peut les utiliser, bien-aimés. Et ce sont même les langues que nous parlons, parce que moi, votre sœur, je peux vous dire que je suis ici, j'ai plus de 55 ans, mais à l'église, ce n'est pas un hasard, des fois, on me demande de me mettre devant et d'interpréter quand il y a, par exemple, les gens qui ne parlent pas français ou bien Lingala ou bien Chiluba qui viennent dans notre église. Je suis obligée de me mettre debout, malgré la santé qui me dérange tout le temps, pour interpréter. Alors, je bénis toujours Dieu pour dire, Seigneur, c'est pas facile d'apprendre une langue à l'âge de 50 ans, ou 49 ans, 55 ans, c'est pas facile. Mais si tu as permis que je puisse apprendre, c'est que c'est pour ta gloire. Alors, je fais de mon mieux pour mettre vraiment cette expérience dans l'œuvre de Dieu pour pouvoir vraiment chercher à ce que la gloire lui revienne à lui seul. Et je vois ici cette expérience qu'il avait de berger, ça l'a beaucoup aidé. Et c'est avec, c'est en utilisant même les paroles de berger qu'il a pu approcher ces inconnus. Et voilà que ces gens vraiment lui ont été vraiment très gentils avec lui, jusqu'au même à lui présenter sa cousine qui était en train de venir avec le troupeau. Donc c'est pour dire que ce que nous avons acquis dans la vie bien-aimée, ne négligeons pas cela. Dieu peut l'utiliser pour notre bien. Merci.
Je voudrais parler aussi.
Oui, merci, papa. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Ce que nous connaissons de la vie est très, très important. Ce n'est pas un hasard que Dieu nous ait passé, fait passer par-ci, par-là. Ce n'est pas un hasard. Nous devons réellement voir pourquoi Dieu a voulu que je fasse ceci, que je fasse cela. Et toute l'expérience acquise, Dieu veut s'en servir.
Amen.
De cette vie de Jacob qui s'avance vers la maison de son oncle. Merci, et Papa José des États-Unis, tu as encore la parole.
Oui, merci beaucoup. Je suis au verset 15, pardon, 5 et 6 aussi. Et à propos de Laban, lorsque Jacob s'est adressé à ses bergers, si ils connaissent cet homme, la réponse était positive. Ils le connaissent et ils n'ont pas tardé à dire voilà, sa fille va venir et vite elle est là. C'est pour montrer que dans ce village-là, cet homme, Laban, était en bonne relation avec les autres. Il était en bonne relation parce que sinon, ils allaient glisser un mot méchant, un mot qui peut froisser Jacob, mais ils ont dit à avec facilité, que non, on le connaît, il va bien, oui, il va bien. D'ailleurs, voici ta fille. Donc, ceci m'apprend à être en bonne relation avec ceux qui sont avec moi, autour de moi. Cela, c'est bien. Et surtout que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas bien que nous ayons de relations tendues avec les gens. Parfois, notre témoignage peut devenir sombre, témoignage de chrétien peut s'assombrir par notre façon de vivre avec les autres. Merci.
Merci beaucoup, Papa José. Nous devons vraiment soigner notre témoignage et nous entendre avec les gens. C'est important parce que tout notre entourage regarde et entend ce que nous sommes, voit ce que nous sommes. Merci beaucoup. Je regarde, je ne vois pas demain. Nous avançons, frères et sœurs, et nous voyons Rachel qui arrive. Nous sommes au verset 9 et 10. Ils étaient encore en train de parler et Rachel arrive avec le petit bétail de son père, car elle était bergère. Et dans ce verset 9, je suis en train de voir un exemple à suivre de cette fille qui est à la maison, mais qui ne croise pas le bras, qui travaille. Qui travaille, et même sa tante Rebecca, quand on est venu l'épouser l'agent ou le serviteur qu'Abraham avait envoyé, c'était la même chose. Donc, vraiment un exemple à suivre de ne pas croiser le bras à ne rien faire. Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on travaille. Et c'est au travers ce travail de bergère qu'elle va rencontrer Jacob. C'est même dans le travail de bergère que Rebecca avait rencontré le serviteur Eliezer qui était envoyé pour l'épouser pour Isaac. Et ce sont des cas significatifs pour dire cherchons le travail. Cherchons à faire quelque chose. Dieu aime qu'on travaille. Voilà encore une intervention.
l'arrivée de Rachel. C'est un texte que je médite toujours difficilement. Quand j'entends le nom de Rachel, me rappelle toujours ma fille qui est retournée au Père du Seigneur. Mais néanmoins, ce que je voulais souligner ici, c'est le cas où Papa José des États-Unis disait tout à l'heure que Laban est connu, Rachel aussi est connue de cet autre berger. Et moi, je suis sûre qu'elle avait un bon témoignage. Sinon, le berger allait dire que, mais regarde, sa fille aussi arrive, c'est une méchante. Mais ils ont dit, sa fille arrive ici, arrive aussi, sans ajouter quoi que ce soit. Moi, je pense aussi qu'elle avait un bon témoignage. Pour dire que, ajouter à ce que vous avez dit, non seulement quand on est chez les parents, on travaille, mais qu'on ait aussi un bon comportement envers d'autres gens qui peut être un bon témoignage et dans notre vie. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Le bon témoignage n'était pas seulement pour Laban, mais aussi pour les membres de sa famille. Les membres de sa famille, c'est Rachel, et même, nous verrons plus tard, même Léa, ainsi de suite. Nous devons vraiment prier pour le témoignage des membres de la famille. On parle du bien de Laban, on parle du bien de Rachel, c'est mieux qu'on parle du bien de tous les autres membres de la famille, et ça fait la fierté de la famille. Alors nous continuons le partage, frères et sœurs, encore quelque chose à dire.
Je voulais, s'il y a lieu, partager toujours le verset 10.
Oui.
Et je vois ici l'aspect de Jacob qui roule la pierre de l'ouverture du puits. Vous voyez, c'est cette rencontre entre Jacob et Rachel. Ce jour-là, il y a eu un changement dans la vie de Rachel. Parce que, je ne sais pas, comme d'autres bergers avaient fermé le puits avec la grosse pierre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait quand il venait pour ouvrir, pour faire boire au brebis, les moutons qu'il avait et les chèvres. Mais ce jour-là, ici, je vois, c'est Jacob qui enlève le curou de la pierre de l'ouverture du puits et qui fait boire les moutons et les chèvres de son oncle. Il dit, c'est le jour de changement dans la vie de Rachel. Il y a eu un changement, ça me rappelle aussi ce texte où les femmes vont à la tombe de Jésus, mais il se rappelle qu'il y avait une grosse pierre et elle était en train de se demander qui nous enlevera la pierre. Mais toutefois, ils sont partis. Rachel est venue sans le savoir qu'aujourd'hui, c'est Jacob qui enlève la pierre du puits. Il est devenu comme l'ange de Dieu, l'envoyé aussi de Dieu.
Ouais.
Il fait le travail ici. Et c'est que c'est déjà aussi des signes, n'est-ce pas, de l'amour qui nous est aussi indiqué ici.
Ouais.
Parce que Jacob le fait, c'est pas l'amour qui le fait, je pense. L'amour pour les biens de son oncle, mais aussi pour sa sœur qui était là, la cousine.
Ouais.
Et cela se traduit au verset 11 par le fait qu'ils s'embrassent, ils font connaissance et ils pleurent.
Ouais.
Et il embrasse Rachel et éclata en pleurs. Donc on voit déjà ici, on peut vous dire dans ces sentiments ici, d'amour, mais aussi d'étonnement de comment est-ce que Dieu a pu réaliser cela.
Ouais.
C'est pas peut-être dit dans le temps, mais je m'imagine un peu cet aspect. en se disant, mais Dieu est formidable. Je lui ai demandé de m'orienter. Voilà qui m'a conduit jusqu'ici. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, Papa Samuel. Nous voyons réellement comment est-ce que Dieu conduit les choses. Elle se demandait effectivement comment est-ce que la pierre sera roulée et voit une personne inconnue jusque-là qui se précipite pour rouler la pierre, mais qui ne s'arrête pas là, qui va même jusqu'à faire abréver les petits bétails de Laban. Et après, elle, lui, l'homme connaissait déjà à qui elle avait affaire, mais la Rachel, non. Rachel observait seulement pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Comment un étranger, une personne qui n'est pas de la région, peut se comporter de cette manière? Mais après, le verset 11 nous montre comment il va embrasser effectivement en sa cousine, mais il va se mettre à pleurer, à se convulser. C'est vrai, il y a de l'amour qui est encore sous-entendu, mais on voit la main de Dieu.
Ouais.
Il se demande, non, Dieu est réel.
Ouais.
Il a promis à Dieu de le conduire, de marcher avec lui jusqu'au moment où il va retourner. Et il voit concrètement, c'est vraiment un grand témoignage pour lui. C'est pourquoi même si ça le dépasse jusqu'à sangloter, jusqu'à pleurer.
C'est ça.
Gloire au Seigneur. Nous continuons. Je vois maman Christine la main levée, allez-y.
Oui, merci, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset, disons la fin du verset 12 et 13. Ici, c'est l'exemple, bon exemple de Rachel, qui, en apprenant que Jacob était un des parents de son père, elle a couru vite annoncer à son père. Et le papa, dès qu'il était au courant, apprenait cette nouvelle que le fils de sa sœur était là, il a couru aussi devant lui et l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Ça, c'est un bon exemple à suivre, l'exemple de papa ou de la fille d'abord, au lieu d'avoir peur, mais ça, c'est une bouche de trop dans la maison qui va encore venir. Non, non, il va annoncer à son papa. Papa aussi, dans la joie, quel exemple à suivre. Comment nous pouvons recevoir des nouvelles comme ça, des gens qui ne nous ont pas écrit ni prévenu, mais qui surgit dans nos maisons? Comment nous pouvons les accueillir? Quelle sera notre attitude si c'était à notre place? C'est comme une interpellation. Amen.
Amen.
Vraiment une grande interpellation, frères et sœurs. Nous qui vivons dans la période où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, ou quand nous entendons même la nouvelle d'un membre de famille qui est en difficulté, ça ne nous dit plus rien du tout.
Ici,
nous sommes en train de voir d'abord Rachel qui se rend compte et va courir. Le verbe courir est utilisé et pour Rachel, et le même verbe courir est utilisé pour Laban.
Vraiment.
Tous les deux vont courir, pourquoi? Parce qu'ils vont faire une découverte. Découverte de son cousin, découverte de son neveu. Mais quelle est la question que je me pose? Quelle est la situation des membres de famille qui peut me faire courir? Quelle est la situation des membres de famille qui peut me faire courir? Avons-nous atteint le niveau du cœur où il n'y a rien qui peut plus nous faire courir? Merci beaucoup. Maman Christine d'Angleterre,
oui.
Tu as la parole.
Oui, merci papa pour la parole. Bien-aimé, je suis vraiment impressionnée pour cet amour qui existe dans cette famille et cette harmonie vraiment. de voir que cet oncle, probablement il était déjà vieux, qui vient au devant de son neveu en courant parce qu'il a appris que c'est le fils de sa sœur. Et bien aimé, c'est vraiment un bon exemple à suivre, comme papa venait de le dire. De nos jours, je vois très mal un papa de 50 ans, 60 ans, qui peut se lever, aller devant un jeune homme. Il allait dire, mais qu'il vienne me saluer, je suis là. Mais ce papa, lui, n'a pas dit ça. Il s'est levé, il est allé en courant pour aller embrasser, accueillir le fils de sa sœur. Vraiment, c'est un très bon exemple à suivre. De nos jours, c'est devenu vraiment rare de voir qu'il y a un membre de la famille qui souffre, surtout nous autres qui sommes de ce côté ici. Quand il y a quelqu'un qui appelle, mais voilà, ces gens, ces Africains, nous emmerdent. Donc, bien aimé, nous devons suivre l'exemple de Laban. Il a très bien agi, et sa fille aussi, ils ont très bien accueilli Jacob. Et ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est de voir que quand Dieu promet de te protéger dans ton voyage, partout où tu seras, comme il a promis à Jacob dans le chapitre 28, Dieu est fidèle, il a accompli. C'est pourquoi nous voyons que Jacob, il est ému. Il est ému vraiment. Ce qui lui est arrivé, vraiment, c'est un grand miracle. C'est pourquoi il a pleuré. Ses pleurs, ce ne sont pas les pleurs d'amertume ou de tristesse, mais ce sont les pleurs de joie de voir que Dieu a accompli sa promesse envers Jacob. Donc, c'est ce que je voulais partager, bien-aimé. Merci.
Oui, je voudrais dire aussi un mot.
Merci beaucoup, maman et Christine. Papa José, allez-y.
Oui, toujours... À propos du verbe courir là, si bon, je mets de côté Rachel, mais je veux dire un mot sur son père Laban. Laban, lorsque on verra ce qu'il dit, verset 14, mais avant cela, c'est ça montre que la séparation avec sa sœur était une bonne séparation. Il n'avait pas de problème entre eux.
Voilà.
Entre eux. Puisque s'il y avait des petites querelles, des mésententes familiales entre les deux, même si on apprend que son fils est là, son fils est là. Mais ici, ça nous montre que entre les deux, c'est-à-dire entre Laban et Rachel, tout allait bien. Et c'est comme ça que nous devons être dans nos familles respectives, avec tous les membres être en bonne relation, même les membres, ce que nous appelons amis étendus, la même chose. Et quand nous rentrons à l'église, que ça soit aussi comme dans nos familles charnelles. Donc, en un mot, que nous soyons vraiment bien-aimés, en bonne attente, en bonne relation avec les membres de nos familles, aussi avec les membres de FIMES, avec les membres de nos églises. C'est ça que... le Seigneur nous demande de vivre entre nous. Merci.
Merci beaucoup. C'est vraiment l'idéal de chercher une bonne entente au sein de la famille. C'est vraiment l'idéal, malgré que l'ennemi cherche toujours des divisions, cherche toujours des querelles, cherche toujours des séparations. Mais si aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Merci beaucoup, papa. Samuel, tu as la parole, s'il te plaît.
C'est toujours le verbe courir. Et ça traduit l'affection.
Amen.
Que ce soit dans le cas de Rebecca, ou de son père.
Rachel.
Oui, dans le cas de Rachel ou de son père, Laban. Okay. Parce que devant moi, il y a fils de Rebecca. Donc, que ce soit dans le cas de Rachel ou de Laban, ce sont des thèmes qui traduisent l'affection.
Ouais.
Et on peut voir cela Lorsqu'on continue, le texte, il nous montre aussi qu'il se précipita à sa rencontre. Donc, c'est comme mon frère a dit tout à l'heure, ça traduit l'affection, l'entente. Et on voit qu'il court, il se précipite, mais il y a l'autre verbe qui vient, le serrer contre lui. Vous voyez, on ne peut pas embrasser n'importe qui.
C'est ça.
Lorsqu'on embrasse quelqu'un, c'est qu'il y a un lien d'amour.
Voilà.
Un lien d'affection. Donc, il le serra contre lui et l'embrassa. On connaît un peu une nouvelle de tradition où, quand tu rentres, maman court pour t'embrasser, ou un membre de la famille. Maman n'est plus là, mais ceux qui sont là courent. Et puis, il le serre. On voit qu'il y a un... Ça va en crescendo, n'est-ce pas? Ça monte d'étape en étape. Et puis, il le conduit dans sa maison. Donc, c'est le point culminant.
C'est ça.
On ne l'embrasse pas, on ne montre pas qu'on l'aime extérieurement, mais on va entrer avec lui dans sa maison. Ici en Occident, on sait que nous nous accueillons avec nos amis sur le seuil de la porte. Vous causez sur le seuil de la porte et puis vous dites ce qu'il y a et puis il retourne.
Ouais.
Mais quand vous le faites entrer dans votre maison, c'est qu'il y a un autre décret.
Ah.
On a un autre décret de connaissance. Et ça, la même chose aussi, on voit qu'on entre dans la maison. Quelqu'un qui entre dans la maison et qui va y rester... Et comme on voit ici, un mois. Alors, c'est pour dire qu'il y a l'amour. Et nous sommes appelés à cela parce que il y a un texte aussi qui nous dit que, qui nous rappelle dans l'Épître aux Hébreux, qui nous rappelle que nous devons exercer l'hospitalité.
Ouais.
Et qu'en l'exerçant, quelques-uns ont accueilli les anges en faisant appel à Abraham. Donc, ici, je vois que c'est une application aussi de ça, l'accueil. Comme vous avez déjà dit, si je suis prêt à accueillir, est-ce que je suis prêt aussi à courir? Est-ce que je suis prêt à embrasser quelqu'un que je ne connais pas? Parce qu'embrasser celui que je connais, c'est facile. Et celui que je ne connais pas, voilà un peu là où nous pouvons encore... sur ce quoi nous pouvons encore réfléchir aujourd'hui. Parce que nous pouvons nous embrasser entre chrétiens aussi.
Ouais.
Si c'était non chrétien, que nous sommes prêts à l'accueillir aussi chez nous, à l'embrasser.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Merci.
Merci. Merci, Papa Samuel. Nous sommes en train de chercher à atterrir. Demain, les deux et Christine. Commençons avec Christine d'Angleterre et nous allons finir avec Christine du Canada.
Merci, papa. Je voulais juste dire à papa José des États-Unis que pour son intervention concernant la relation qui était entre Rebecca et son frère Laban, et c'est dans le chapitre 24 de Genèse au verset 60 où il est dit « Il bénit Rebecca et lui dit « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des milliards et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Donc, c'est pour dire que c'est séparé et Laban et sa famille avaient même béni Rebecca avant qu'elle parte. Donc, la relation est bonne lorsque Rebecca est partie. C'est pourquoi il a accueilli encore son fils. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.
Merci beaucoup, ma sœur Christine, maman Christine au Canada.
Moi, je voulais parler aussi de la relation pour dire que vraiment que la faveur du Seigneur soit dans nos familles pour que nos enfants aient cet même amour. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que si Dieu n'est pas là, l'amour ne peut pas être là. Nous voyons comment et dans nos propres familles, il y a vraiment... Moi, quand on méditait ce matin avec mon mari, j'étais en train de poser à mon mari une question, mais imagine-toi mon frère qui voit mes enfants, est-ce qu'il va les accueillir comme ça? Pourquoi je dis ça? C'est l'ennemi détruit l'amour pour rien comme ça dans nos vies, si bien qu'on est jalouse de son frère ou de sa sœur. Donc, pour dire que vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, imaginez-vous si c'était Jacob qui, disons, avec Esaïe, qu'est-ce que ça allait être? Ça n'allait pas être la même chose. Donc, pour dire que n'y a que le Seigneur qui peut nous garder de bonnes relations. C'est ma prière pour dire que le Seigneur nous aide dans nos familles respectives, chez nos enfants, qu'il ait un pareil amour. Amen.
Amen.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vraiment nous aide pour qu'il y ait de l'amour au sein de la famille, pour que cela se répercute même auprès de nos enfants.
Amen.
Jacob, parce que quand tout ceci, la rencontre s'est passée dans la soirée, et quand ils sont arrivés à la maison, Jacob a commencé à raconter tout à Laban. Alors je me disais, mais ils ont dormi, parce que il va raconter tout ce qui s'est passé chez soi. Ah, c'était énorme ce qui s'était passé. Mais il s'est mis à raconter ce qui s'est passé avec son frère, avec la soupe, ce qui s'est passé avec sa mère, la façon même dont il a habillé la peau de l'animal, semblait. Il a tout raconté. Il a tout raconté. Même en cours de route, comment il a vu l'échelle, comment... Non, c'était... Il y avait beaucoup, beaucoup à raconter.
Ouais.
Mais il a tout raconté. Mais quand nous regardons le verset 14, Laban va dire certainement, tu y es de mes os et de ma chair. Encore là, une grande déclaration d'attachement, d'amour, une grande affection, mais aussi pour dire à cet enfant, tu es chez toi, tu es le bienvenu, sens-toi à l'aise, tu es auprès de tiens. Est-ce que les gens peuvent-ils se sentir de cette manière chez nous, à la maison, où les gens sont mal à l'aise à cause du regard, à cause de la façon dont nous accueillons les gens? Est-ce que les membres de l'Église peuvent se sentir à l'aise avec nous de cette manière? Parce que la famille chrétienne, c'est la vraie famille. Peuvent-ils se sentir vraiment à l'aise avec nous? Ou nous sommes toujours en train d'accueillir mal des gens, ainsi de suite. Pouvons-nous recevoir les frères et sœurs dans nos maisons? Quel témoignage nous avons là-dessus? Oh, c'est vraiment parlant, interpellant ce message de Jacob qui arrive chez son oncle. Voilà, frères et sœurs, nous nous arrêtons là. Nous allons lire nous-mêmes le pain du jour. Je pense que tous ceux qui sommes là, nous avons le pain du jour. Nous n'allons pas lire parce que la matière était abondante et que nous aimerions aussi terminer à temps. Seulement le texte de demain. Demain, nous commencerons avec 14b jusqu'au verset 35. Donc, nous terminerons en principe demain le chapitre 29 de cette histoire avec l'arrivée de Jacob chez Laban. Prions le Seigneur. Notre Dieu, quelle richesse tu nous donnes. Quelle richesse tu nous donnes. Combien tu nous montres ta main qui conduit. Nous avons aussi des situations pareilles où nous cherchons Dieu à nous conduire. Nous voulons voir cette faveur accompagner chacun et chacune d'entre nous. Nous voulons voir nos expériences les mettre au service de l'Évangile. Nous voulons, Seigneur, nous recommander à toi pour que les tensions qui existent dans nos familles respectives, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos oncles, nous voulons réellement voir à détruire au nom de Jésus l'action du diable pour qu'il y ait une bonne entente au sein de frères et sœurs, au sein de neveux, de cousins, que nous ayons des relations qui peuvent réellement aider l'entente et l'affection, des situations qui peuvent même nous aider à courir pour téléphoner, à courir pour donner, à courir pour faire ce qui est pour cela, que tu sois honoré. Rappelons-nous, que nous rappelons, Seigneur, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci, que ta bénédiction abonde dans toutes nos maisons ce soir et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.
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 Amen. Pasteur Samuel?
Oui.
Le frère Jean-Baptiste, je voulais vous parler quelques mots.